Inter. Il est 8h42.
France Inter. Le 7-9. Intervenez.
Au 01 45 24 7000 avec d'abord Nicolas qui nous appelle de Nantes. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
J'avais une question à vous poser. D'abord, je voulais vous dire que j'admire beaucoup votre travail pour les libertés. Voilà.
C'est très aimable.
Ma question en deux volets, c'est un, pourquoi est-ce que la France est le seul pays à avoir adopté des mesures aussi radicales contre le terrorisme, à avoir modifié sa constitution, alors que ni la Belgique ni l'Angleterre, que je sache, n'ont adopté de telles mesures, qui sont si restrictives. Et j'ai une question connexe, c'est surtout à l'intention de la rédaction de France Inter, quand on voit la macromania qui habite les Thomas Legrand et j'en passe, et même vous d'ailleurs, Monsieur Cohen.
Ah bon ?
Oui, c'est vraiment très choquant.
Vous m'avez entendu vendredi sur ce sujet, monsieur ?
Ah, Monsieur Legrand, je pense que maintenant je ferai des sauts de cabri sur mon siège le matin quand je vous écoute en me disant c'est incroyable.
Est-ce que vous pouvez podcaster ma chronique de vendredi sur ce sujet.
Oui, Thomas Legrand.
Oui, mais vos chroniques sont toujours très doucereuses, elles sont toujours articulées de façon à ce que on tape d'un côté, mais de l'autre côté on donne à manger, on donne à moudre.
Nicolas, en l'occurrence, la chronique de vendredi était consacrée à notre sujet de ce matin, le projet antiterroriste présenté par le gouvernement, et Thomas Legrand était extrêmement critique contre le projet du gouvernement. Mais peut-être espériez-vous que ce soit plus violent. Mais
quand tous les jours on vous entend faire les louanges d'un monsieur sorti de nulle part qui a eu je ne sais combien de dizaines de couvertures de magazines sans aucune raison, on se pose la question de l'objectivité. J'en reviens à ma deuxième question, qui est pour votre invité, pardon, qui est beaucoup plus intéressant, je pense, que dans sa réflexion.
Évidemment, nous avons été forcés de l'inviter par le pouvoir dans une perversité.
Ça c'est de la caricature. Vous pouvez user de caricature pour essayer de justifier des choses qui sont de l'ordre du ressenti d'un bon nombre de gens. Effectivement, j'en reviens à ma deuxième question. C'est que la presse refusant de jouer son rôle de contre-pouvoir.
Qu'est-ce qu'on fait ce matin, monsieur?
Est-ce que le risque justement d'une telle emphase pour monsieur Macron n'est pas d'une dérive? Et j'en viens à ma deuxième question. N'est pas d'une dérive qui risque de mener la démocratie beaucoup plus mettre la démocratie beaucoup plus en danger qu'on ne le croit devant la faiblesse justement des commentateurs journalistiques notamment. Voilà. C'est ma question.
Je suis sans voix, Nicolas. Je suis sans voix, mais je sais pas ce que. Bon, enfin bref.
C'est pas grave.
Patrice Spinozzi.
Alors sur ces deux questions, la première question que vous posez sur le droit comparé, sur ce qui est fait à l'étranger, c'est une réflexion qui est évidemment très juste. Il est quand même fascinant que, alors même que évidemment nous ne sommes pas, hélas, la seule démocratie à être aux prises avec le terrorisme, nous sommes la seule qui ait eu besoin de recourir à l'état d'urgence. Donc il est certain que les Anglais, par exemple, puisque vous les avez cités, quand bien même ils ont été très durement frappés par le terrorisme, n'ont jamais pensé à instaurer un état d'exception et à mettre sous cloche les libertés individuelles de tous les citoyens au motif de la répression du terrorisme. Ça, c'est un vrai élément de réflexion pour nos gouvernants. Il faut bien comprendre, on l'a évoqué, que l'état d'urgence a servi en réalité le pouvoir comme étant une force d'action politique contre le terrorisme. C'est toujours plus facile en réalité de faire une loi que de donner des moyens, que de trouver des solutions pratiques. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais arrêté un attentat avec un texte de loi, mais on donne l'impression comme ça d'agir. Sur la deuxième question que vous évoquez, le risque en réalité d'une dérive, c'est précisément ce que nous dénonçons. On voit bien le danger de ce que on soit en train de pérenniser un système où en fait on casse la mécanique de la séparation des pouvoirs. À partir du moment où on donne trop de pouvoir à l'exécutif et donc à la police, sans un contrôle suffisant du juge, on est en train de créer les outils de notre propre asservissement. L'état d'urgence, il était temporaire. Maintenant, on est en train de nous expliquer qu'en réalité, il va durer. Et le gouvernement nous dit, faites-nous confiance. Mais faire confiance à la démocratie, ça n'a jamais été de faire confiance à un gouvernement, quelles que soient ses intentions. Pour vous donner un exemple, sans prendre l'exemple caricatural de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, si demain, vous avez un président de la République qui, en France, est globalement l'équivalent de Trump, il va trouver à son bénéfice tout un un arsenal législatif hyper répressif qu'il pourra utiliser sans aucune difficulté.
Là, c'est ce que vous disiez il y a quelques mois, avant les élections, sauf que là, bon, on peut dire que c'est pas prévu dans les années à venir.
Mais le
vous
principe,
disiez, aujourd'hui, on peut faire confiance au gouvernement, mais on ne sait avec pas un autre gouvernement,
mais on ne sait jamais. Mais c'est le principe même. C'est le principe même de la démocratie. La démocratie, c'est d'avoir des pouvoirs qui sont des pouvoirs limités, qui permet de limiter l'action du gouvernement. Donc oui, il y a un effet dangereux. Il y a un effet cliqué. Aujourd'hui, si on transmet, comme le gouvernement en a l'intention, les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun, qu'est-ce qui va se passer après? Vous croyez que si demain il y a un attentat, vous croyez qu'il n'y aura pas des voix en France qui viendront dire « ça ne suffit pas ». Et on va aller où? On va créer quoi? Un super état d'urgence? Oui, il sera où la soupape répressive? Elle est passée où à partir du moment où on a intégré l'état d'urgence dans notre droit? Ça va être l'article 16? Les pleins pouvoirs au président Macron? C'est ça ce qu'on veut pour combattre le terrorisme? Mais on va où là?
Alice nous appelle de Paris. Bonjour Alice.
Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler pour faire une petite observation ou une remarque. Lorsque vous indiquez que la légalité des mesures qui seront prises ne seront plus soumises au contrôle de l'autorité judiciaire, je pense qu'il est opportun de préciser que cela ne signifie pas qu'elles échappent à tout contrôle juridictionnel, puisque leur légalité est contrôlée par la juridiction administrative, qui est un juge de droit commun, du contrôle des décisions administratives, et qui est le juge qui fait respecter les libertés fondamentales, ce que mon confrère Maître Spinozzi sait très bien, puisqu'il plaide régulièrement devant le Conseil d'État. Je pense qu'il faut préciser aux auditeurs qu'il y aura toujours un contrôle, mais un contrôle différent. Alors, qu'on discute l'opportunité de cette mesure, il le faut, mais je crois qu'il faut quand même préciser, parce que dans beaucoup d'articles qu'on lit, on dit qu'il n'y aura plus de contrôle du juge. Mais c'est pas vrai, il y aura un contrôle, mais contrôle du juge administratif. Voilà, donc je voulais faire cette observation à Maître Spinozzi.
Vous avez bien fait, merci Alice.
Alors juste un mot là-dessus, c'est certainement moi qui n'ai pas été suffisamment clair. Il est évident qu'il y aura bien un contrôle du juge administratif, mais on l'avait évoqué, ce contrôle, le problème, c'est le moment où il intervient. Il intervient a posteriori, après la mesure. Le contrôle du judiciaire, il intervient avant. Et si demain, encore une fois, pour reprendre l'exemple d'une perquisition, si demain on vient perquisitionner chez vous, eh ben, vous pourrez toujours saisir un juge administratif après la perquisition, sauf que votre porte, elle aura été défoncée, vos tiroirs, ils auront été vidés, vous aurez été bloqué chez vous pendant tout ce temps-là, et le juge administratif, il n'aura pas pu empêcher cette action contre vos droits et vos libertés.
Je ne suis pas policier antiterroriste et la plupart de nos auditeurs non plus, mais enfin, on peut comprendre que, pour des raisons d'efficacité et d'urgence, il peut être nécessaire de ne pas recourir à un juge avant d'effectuer une perquisition.
Alors, deux choses. Un, on revient à la question de l'efficacité. Près de 5000 perquisitions qui ont été réalisées dans le cadre de l'état d'urgence, qui ont abouti à moins de 0,5% de poursuites. Donc...
Attendez, Thomas, on vous entend.
Depuis octobre, il n'y a eu que 22 perquisitions dans le cadre de l'état d'urgence.
L'état d'urgence, à partir du moment où ça marche, tout le monde est prêt à sacrifier un peu de ses libertés individuelles à partir du moment où ça marche. Mais à partir du moment où ça n'est pas utile, ça n'a plus de sens. Et le danger, il est bien là, si vous voulez.
Thomas Legrand, arrêtez de faire les louanges de l'équipe Macron. s'il vous plaît. Gabriel nous appelle de Montpellier. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour, Patrick Cohen. Merci pour la qualité de vos émissions. Merci à cette équipe. Je voulais poser la question à l'invité qui était capable de faire une liste des points positifs dans l'état d'urgence qui serait transcriptible dans le droit commun, comme par exemple la levée des heures légales de perquisition, 3 points de suspension.
Alors,
Patrice Spinozzi.
Encore une fois, l'état d'urgence, il a été. C'est quoi l'état d'urgence? C'est la possibilité de frapper tous azimuts immédiatement. Voilà. Et ça, c'est très utile quand vous êtes face à un danger qui est un danger imminent. Quand vous avez besoin tout de suite d'utiliser toutes les pistes que vous pouvez avoir. Là, il est utile l'état d'urgence et c'est là où précisément, après les attentats du Bataclan, il a pu être utilisé avec efficacité et potentiellement réussir à aider le travail des forces de police. Aujourd'hui, on le voit bien, l'état d'urgence d'ailleurs, ces mesures ne sont plus utiles. pourquoi ? Parce que, Dieu merci d'ailleurs, ça n'est pas en défonçant des portes au hasard des dénonciations que vous avez du jour au lendemain que vous allez démanteler les filières terroristes. Aujourd'hui, la quasi-totalité des attentats qui ont pu être déjoués en France, ils l'ont été par le travail de la police judiciaire, de l'antiterrorisme. Il y a des travaux d'enquête qui sont réalisés et qui sont utiles. Donc, l'état d'urgence, moi, j'en ai vu une utilité qui était une utilité immédiate, tout de suite après les attentats. Je ne suis pas sûr qu'il était nécessaire de le proroger et de nous maintenir dans cet état d'exception. Après, le gouvernement, il a un problème aujourd'hui avec l'état d'urgence. Le problème essentiel, c'est la question des assignations à résidence. C'est la question de personnes qui sont aujourd'hui considérées comme dangereuses par les services, mais sur lesquelles on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir engager une procédure judiciaire.
Il y en a combien ?
On pouvait, aujourd'hui, il y en a une cinquantaine encore aujourd'hui sur le territoire français. Et c'est bien évidemment un des points qui cristallise toutes les difficultés. Qu'est-ce qu'on fait si on arrête l'état d'urgence ? Est-ce que c'est ces gens-là ? Est-ce que du jour au lendemain, on peut les laisser sortir ? Et ça, c'est ce que ne voulait pas, évidemment, le gouvernement. Il aurait pu régler ça en conservant le principe d'une assignation à résidence, sauf que cette assignation à résidence, il aurait pu la faire valider par l'autorité judiciaire et non pas simplement par le juge administratif a posteriori.
Patrice Pinazzi, on va marquer une pause avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver Alex Vizorek. Il est 9h05, bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité ?
Oui, bonjour Patrice Pinazzi. J'étais très intéressé par l'exemple de l'Angleterre que vous donniez. Moi, je me souviens d'un papier de la philosophe Judith Butler, américaine, après les attentats du 13 novembre, qui mettait déjà en garde contre l'état d'urgence en rappelant ce qu'avaient connu les États-Unis après les attentats du 11 septembre. Et elle avait cette phrase très forte, une version de la liberté est attaquée par l'ennemi, une autre version est restreinte par l'État. La question c'est pourquoi en fait on s'est soumis aussi facilement à une suspension de liberté et potentiellement à une suspension de démocratie. C'est presque une question psychologique que je vous pose.
C'est surtout une question philosophique en réalité. Je pense qu'aujourd'hui il y a un besoin absolu de sécurité et que sur l'autel de la sécurité, les citoyens sont prêts à sacrifier une partie significative de leur liberté. Moi, ce qui m'inquiète en réalité dans ce mouvement, c'est que au fond, c'est ce que veulent les terroristes. Le régime de la terreur, c'est ça, c'est de nous faire peur et de nous faire peur au point d'oublier ce que nous sommes nous-mêmes. Les terroristes, ils méprisent fondamentalement nos droits de l'homme et en particulier les droits de la femme. Et face à la menace qui est la nôtre, comment réagissons-nous ? Au lieu de brandir nos droits, au lieu de brandir l'ADN de ce qui est nos démocraties, eh bien en réalité, on baisse pavillon et on dit, eh ben écoutez, très bien, on abandonne les droits de l'homme en partie, en tout cas on les parce que c'est comme ça qu'on combat au mieux le terrorisme. Si les États policiers étaient les plus armés pour combattre le terrorisme, un, ça se serait, et deux, des pays comme la Russie n'auraient jamais connu les attentats qu'ils ont pu connaître. Tout ça est une illusion, et précisément, le but, c'est que l'ensemble des citoyens puissent en avoir conscience, collectivement, d'une manière ou d'une autre. La spirale de l'exception, la spirale de la répression, historiquement, ça n'a jamais mené à quelque chose de bon. Je pense que, en réalité, il faudrait que chacun s'en rende compte, et le but, potentiellement, de mon intervention ce matin, c'est de dire, d'une manière ou d'une autre, ne croyez pas que vous resterez indemne face à cette montée sécuritaire. Ça vous rattrapera, qui que vous soyez. Ne pensez pas que c'est limité au terrorisme. Les effets cliqués existent. Quand on va en avant, on ne va jamais en arrière en matière de répression.
Les droits de l'homme, c'est aussi les droits de la presse, la liberté de la presse. Eh bien, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, François Bayrou, vient de se faire taper sur les doigts par le Premier ministre Édouard Philippe. Vous savez que François Bayrou avait appelé Radio France pour se plaindre d'une enquête en cours sur les emplois fictifs, présumés fictifs au sein du MoDem. Édouard Philippe vient d'indiquer « Quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme un citoyen », déclaration dans une interview à l'instant à France Info.